ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Jean-Claude Meyer. Bonjour, merci de venir parler de votre passion, de votre foi. Vous êtes prêtre de l'Église catholique à Toulouse, mais vous êtes aussi docteur en droit et en théologie. Une autre casquette, je veux dire, c'est aumônier de la clinique des Cèdres, dont nous parlerons un peu à la fin. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en partie le résumé de votre thèse « La vie religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution ». 1789-1801, et un petit ouvrage qui est paru dans la collection cette année-là à Toulouse. Nous avons eu déjà plusieurs personnes qui ont publié dans cette petite collection. Le vôtre, 1791, deux évêques pour une même cathédrale. Un sujet passionnant, mais ô combien difficile, parce qu'il s'agit des relations entre l'Église et l'État à la Révolution, il s'agit du Concordat. D'abord, bonjour, merci de venir à Radio Présence. Alors, je vous propose trois moments. Pourquoi un évêque constitutionnel et Monseigneur, vous dites plutôt Sermé, celui qui apparaît sur le site de Radio Présence, avec à côté de la couverture du livre cette année-là. Donc, pourquoi dans Toulouse la Sainte, qui est très catholique, qui est royaliste, on verra comment elle est profondément catholique, et pourquoi le schisme va apparaître. Deuxième partie, bien les partisans et les adversaires de ces réformes religieuses. Et la troisième partie, c'est la fracture et ses incidences au moment d'une déchristianisation. Alors, vous êtes donc prêtre, en fait, du Prado.
Oui, j'appartiens à l'association des prêtres du Prado, où j'ai fait profession. Mais les prêtres du Prado ont été fondés au XIXe siècle par le bienheureux Antoine Chevrier à Lyon, qui voulait des prêtres destinés aux personnes humbles, aux personnes pauvres. Et mon ministère, d'ailleurs, comme aumônier hospitalier, depuis 30 ans maintenant que je l'exerce, à la clinique des Cèdres, avant j'étais en paroisse, comme curé, comme vicaire d'abord à l'église des Minimes, puis comme curé à Montesquieu-Volvestre, puis à Aurillac-sur-Vendinelle, et enfin à Tille. Et depuis 30 ans, je suis donc aumônier de la clinique des Cèdres à Corne-Barieux. Ce ministère correspond aux intuitions de notre fondateur, le bienheureux Antoine Chevrier. Et j'ai été très marqué dans mon cheminement. D'abord, aux 18 ans, je réfléchissais depuis un moment à la vocation sacerdotale, cet appel mystérieux. Et j'étais faisais une petite retraite à l'abbaye Saint-Benoît à Incalcate, quand le père Stanislas, vu mes préoccupations, me sortit une brochure sur le Prado, et ça avait l'air de me convenir, et ainsi j'ai pu contacter les prêtres du Prado qui étaient à Toulouse. Et finalement, ensuite, au cours de mon séminaire, j'ai cheminé avec l'équipe des prêtres ouvriers qui m'ont profondément marqué, que j'ai toujours admiré.
Un travail avec les pauvres, avec les humbles, avec le peuple, mais aussi un travail d'intellectuel, parce que vous avez préparé, ça c'était l'aboutissement de votre travail, en 1982, cette thèse de droit que j'évoquais tout à l'heure, « La vie religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution », et qui est publiée à l'université anciennement du Mirail, Jean Jaurès maintenant, avec plus de 600 pages, un index formidable où les érudits peuvent trouver tout de suite ce qu'ils recherchent avec des mots-clés, et puis alors une bibliographie, mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de cette tome, j'allais dire, de cette somme, mais du petit livre qui est vraiment à l'abordée de tout le monde et qui permet de dire, pour la somme modiste, hein, de modeste de 6,80 €, ça commence par le son des cloches, le 8 mai 1791, où une foule se dirige vers la cathédrale Saint-Étienne. C'est l'installation du Carme Sermet, dont nous avons la photo sur le site. Alors, oui, deux évêques pour une même cathédrale. Expliquez-nous pourquoi cette tension et bientôt le schisme.
Le mouvement révolutionnaire avait commencé par dans la paix et l'allégresse, en somme. C'était d'abord les élections des députés aux États généraux. À Toulouse, l'évêque, et le nouvel évêque, qui avait remplacé d'ailleurs l'aumônier de Brienne, avait laissé un très bon souvenir à Toulouse, il ne faut pas l'oublier. Et son successeur, François de Fontanges, était un homme de Dieu, il n'y a pas de problème, qui aimait ses prêtres et qui aimait aussi ses nouveaux diocésains. Et François de Fontanges avait été élu comme député du clergé, parmi les députés du clergé de la Sénéchaussée de Toulouse. Donc, à ce moment-là, il avait rejoint les États généraux. Il n'était pas à Toulouse.
Il y avait des cahiers de doléances et entre autres, on demandait dans ces cahiers que le titulaire d'une chaire épiscopale soit résident. Pas seulement à Toulouse, mais partout ailleurs.
C'était le débat. Il était résident, seulement là il était à Paris obligatoirement puisqu'il était élu aux États généraux.
Oui.
Et donc, Sermet, lui, était enthousiaste pour les idées nouvelles. Il faut bien préciser, Sermet aimait prêcher en patois. De la région toulousaine. Ces sermons ont été publiés. J'en ai fait la traduction, d'ailleurs, des principaux dans un autre ouvrage qui était la thèse de théologie que Jean de Viguerie a préfacé. La thèse d'État avait été publiée préfacée par le doyen des lettres Jacques Godechoux, le maître qui m'avait formé étant Paul Ourliac, pour qui je conserve une très grande admiration. Voilà, et Jean de Viguerie a eu l'amabilité de préfacer ma thèse de théologie. Deux théologiens en révolution, Barthes, évêque du Gers, et Sermet, évêque constitutionnel de Toulouse.
Je reviens sur le français parce que il y avait très peu de gens en fait qui parlaient français. L'abbé Grégoire qui a beaucoup qui s'est battu pour que en fait le français soit appris, enseigné par tout le monde et qui fera le CNAM, enfin ce qui est devenu le CNAM. Donc il était attentif aussi pour qu'il y ait certaines unités. Là on retrouve disons les Jacobins, hein, le centralisme. Ah, oui. Et la Révolution a essayé d'unifier la France.
Elle a voulu l'unifier aussi en réformant. En réformant l'Église. Alors, la réforme s'installe avec les États généraux. La première chose, nous ne l'oublions pas, c'est la nuit du 4 août 89. Une fois que les députés des trois ordres se furent réunis, il y a eu, dans l'enthousiasme, un enthousiasme relatif, mais un enthousiasme apparent, la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Notamment l'abolition aussi des dîmes, et c'est-à-dire les impôts payés notamment sur les bienfonds du clergé, qui étaient payés au profit du clergé et aussi d'autres organismes, enfin, mettons les hôpitaux, sur les revenus agricoles. Donc voilà, cette suppression est en fait, comment trouver des revenus. Et au mois de novembre, ce fut de 89, ce fut la décision de confisquer les biens immobiliers du clergé.
Oui.
D'où, là, ce furent les premières mesures. En cas en 90, il fallait la mise en œuvre commencer. Et pour cela, par le biais de la réforme économique, l'Assemblée constituante se glisse dans la réforme de l'Église. Puisqu'on supprime les revenus, comment va-t-on les financer ? Eh bien, ce fut d'abord financer la crise économique, dont la vente des biens immobiliers. La première tranche des biens nationaux a été votée. Et en février 90, on décrète, l'Assemblée constituante décrète l'abolition des vœux religieux.
Il faut dire que Toulouse était une ville sainte, comme vous dites dans la première partie. Il y a plus de 100 ecclésiastiques au chapitre de la cathédrale et 44 à Saint-Sernin. Il y a 4 confréries de pénitents, il y a 16 sociétés de charité, alors 16 couvents de religieuses. On ne peut pas imaginer cela aujourd'hui si, à travers les bâtiments qui restent.
Et donc, l'organisation nouvelle qui commence pas à être déclenchée, c'est de de supprimer les maisons de religieux où il y a le où il n'y a pas un minimum de religieux et de les réunir dans certaines maisons des religieux d'ordres différents.
Alors il va y avoir une scission
immédiatement, oui, des mouvements d'opposition. Le quartier des membres du Parlement de Toulouse participe à mon mécontentement. Il y a des heurts et nous nous retrouvons avec très vite avec une émeute.
Et puis les réfractaires, comme on les appelle, les jureurs.
Ça provient de la réforme de l'Église. L'Assemblée constituante se considère. C'est les propos de Treillard qui présidait la séance à un moment donné, qui déclare « Vous êtes le concile ». Et oui. C'est la constitution civile du clergé qui est imposée.
On verra ensuite comment le pape va intervenir également, et puis ensuite avec Napoléon Bonaparte. Mais
alors
peut-être
il faudrait préciser
une pause musicale, oui, préciser une minute et nous
la
reviendrons.
La constitution civile du clergé imposée comportait la suppression de 50 diocèses. Parce qu'il fallait simplement un diocèse par département.
Organisé en fonction de la réforme géographique administrative.
Voilà.
Pour que chacun puisse aller voter, n'est-ce pas, à cheval dans la journée. Enfin, c'était le prétexte.
Enfin, de toute manière, on ne demande pas l'avis des chefs de diocèse, des évêques, et on réforme.
Et alors la population n'est pas forcément proche des intrus, de ce qu'elle appelle les nouveaux venus.
Vous allez très vite là.
Non mais parce que je voudrais, déjà nous sommes à la moitié de notre émission,
voilà.
cher Jean-Claude, et vous avez apporté un moment de paix, de calme. Jésus, que ma joie demeure, je pense que nous allons calmer justement cette tension qui va aboutir au schisme avec la musique de Jean-Sébastien Bach.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Jean-Claude Meyer, vous êtes docteur en droit et en théologie. Vous êtes aussi aumônier de la clinique des Cèdres. Vous êtes prêtre et je crois que votre psaume exprimer cette tension, c'est le 88. Le zèle de ta maison me dévore, l'insulte des insulteurs tombe sur moi, il va y avoir des prêtres qui seront condamnés à mort, des religieuses également, l'expulsion d'un certain nombre de royalistes et de catholiques qui ne veulent pas de cette réforme. Et vous aimez beaucoup les versets 36-37, Yahvé exauce les pauvres, il ne méprise pas ses captifs. Cette espérance et en même temps cette foi de penser qu'il faut lutter contre, on va dire peut-être contre le diable, ou en tout cas contre... Non, pas contre le diable. Je vous laisse exprimer pourquoi ce schisme.
Le schisme provient de l'entêtement de l'Assemblée constituante d'obliger à une soumission entière. Et le refus de comprendre que des prêtres, en particulier, se manifestent déjà au moment du serment exigé des prêtres députés qui se trouvent à Paris, à membres de l'Assemblée constituante, qui exige le serment exigé, c'est le serment à la Constitution civile, le serment à la à la Constitution, mais la Constitution civile du clergé devait en faire partie. D'où, immédiatement, certains des prêtres députés veulent prêter le serment en réservant les questions spirituelles.
Oui, et refuser de prêter serment, ça veut dire pour des prêtres qu'ils vont perdre leur traitement.
C'est-à-dire ils veulent prêter le serment, mais en réservant les questions du spirituel.
Oui.
Et l'Assemblée le refuse.
Et certains prêtres ne pourront même plus célébrer les mariages. Et ce seront les sages-femmes qui vont ondoyer, qui vont baptiser.
Oui, des, en secret éventuellement.
En secret, c'est ça.
La question va se durcir. C'est un schisme véritable. Les nouveaux évêques sont élus. À Toulouse, c'est Sermet. Sermet était un brave homme, un prédicateur, il aimait bien les gens. Il était proche du peuple. Et il s'est engagé là jusqu'au jour où, lorsque la persécution se déclenche avec les Jacobins au pouvoir à Paris, avec le mouvement qui s'engage dans la répression des réfractaires.
Parfois par les armes aussi.
Ah mais aussitôt, c'est l'obligation, ceux qui... En 1793, c'est l'obligation de s'exiler. Fontange, l'évêque titulaire, se soumet à la loi. Il ne part pas volontairement, il se soumet à la loi et il émigre en Angleterre. Beaucoup de prêtres vont émigrer, mais ce n'est pas une émigration volontaire. Ils se soumettent à la loi. D'autres, une grande partie de prêtres réfractaires, restent sur place et continuent, dans la mesure du possible, à exercer le culte.
On arrête 457 prêtres, mais certains venus d'autres régions.
D'autres de la région, et certains, le tribunal criminel révolutionnaire est également en fonction, et ceux qui continuent à exercer le culte peuvent relever du tribunal révolutionnaire et être exécutés.
Alors, nous allons faire un gros saut jusqu'à Bonaparte, son coup d'État, mais qui n'abroge pas.
Juste je voulais ajouter que la persécution atteint même l'Église constitutionnelle et Sermet, à un moment donné, se retrouve en prison. Il en sortira ensuite, au moment de la chute des Jacobins, mais la législation Sermet reprend ses fonctions. Il le fait comme il peut. Il est conscient que le schisme lui est défavorable, que dans la région toulousaine, les catholiques lui sont, que le peuple d'une manière générale lui est opposé. Il voudrait démissionner, mais il reste en fonction. Cependant, convaincu que c'est son devoir. Par contre, avec les Thermidoriens, c'est de nouveau la persécution contre l'Église réfractaire, la déportation et la mort aussi sur les pontons de La Rochelle. Pour beaucoup. Ce qui fait que ce clergé réfractaire est auréolé de la gloire du martyr.
Oui.
Et la pacification va arriver, et on comprend évidemment qu'elle est accueillie avec joie, c'est le rôle de Bonaparte, qui impose la réconciliation entre les jureurs et les réfractaires, ce qui se passe et qui redonne du pouvoir au pape Pie VII.
Avec c'est lequel il va signer le concordat.
C'est le concordat.
C'est ça. Mais que certains refuseront, ce qu'on appelle la petite église, les enfarinés qui resteront minorités jusqu'en 1900.
Dans la région toulousaine, ils sont très minoritaires.
Oui, ils monteront vers l'Ardèche. Alors, c'est important aussi de faire un petit saut pour justement rappeler le rôle de Monseigneur de Clermont-Tonnerre en 1820-1830, parce que de nouveau, des tensions très fortes au niveau de l'Église et entre l'Église et la société. Il s'agit des frères des écoles chrétiennes, entre autres, qui tiennent une place importante dans l'enseignement primaire.
C'est-à-dire qu'aussitôt le concordat, une fois mis en œuvre, est nommé comme évêque de Toulouse, comme archevêque de Toulouse, un constitutionnel. Alors que Toulouse était plutôt à forte majorité...
Ultra-royaliste.
Non, réfractaire.
Oui.
Alors, l'ultra-royalisme, c'est une autre
ce
question
que vous signez, page 42, un débat...
Voilà.
Oui.
Mais la prima, qui est constitutionnelle, réussit à faire l'unité de ce clergé.
Avec un réveil religieux important.
Avec un réveil extrêmement important, que prima pacifie, il est très pacifique, et ses successeurs aussi, il y a un mouvement de...
Comment dire, d'apaisement.
D'apaisement, seulement en même temps. Le parti royaliste qui se comprend très bien, 52 membres du Parlement de Toulouse ont été exécutés à Paris.
Est-ce qu'on peut parler de relapse comme au temps des premiers martyrs? C'est un terme qui n'est pas approprié, qui est, pas de contresens historique.
Non, non.
Mais redites-nous, donc, Monseigneur d'Astros monte sur le siège épiscopal en 1830, il le conservera jusqu'en 1851. Il est opposant à Napoléon, mais en même temps, il va donner une idée légitime par rapport au nouvel État. Hein, il dit « Notre devoir est d'adresser nos voeux au ciel pour le bonheur des peuples. »
Oui.
Mais il ne comprend pas.
Alors, d'Astros... respecter l'État. Il ne veut pas que les prêtres se mêlent de politique. Il ne veut pas que son clergé se compromette avec le parti ultra-royaliste.
C'est ça.
Seulement, il veut le clergé s'occuper uniquement de religion. Et il ne comprend pas une évolution du monde moderne.
L'industrialisation de la France, ses implications dans la justice sociale.
Voilà.
Nous allons clore parce qu'il faudra que vous reveniez. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu parler avec Isabelle de votre livre. Réécouter cette émission. Parlez-nous plutôt de votre passion pour les pauvres et pour le service des malades à la clinique des Cèdres.
Ce ministère, je l'exerce et je l'exercerai, bien sûr, avec l'accord de l'évêque. C'est lui qui m'a nommé, bien sûr. C'est un ministère passionnant, humble. Il faut savoir se glisser dans l'établissement, établir les contacts avec le personnel, qui est extrêmement courtois à mon égard, très dévoué, respectueux. Mais il faut que je tienne ma place, ce qui est normal. Je ne dois pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est comme cela qu'il y a une salle d'office religieux qui a été...
Multiculturelle.
Oui, qui...
C'est le cas de la laïcité française aujourd'hui, en 2020.
Alors évidemment, je célèbre la messe régulièrement, pas en période de Covid, bien entendu. Là, il a fallu prendre les mesures, la salle étant petite, minuscule même. Il n'est pas question de célébrer, les risques auraient été trop importants. Mais dès que c'est possible, la messe sera célébrée de nouveau régulièrement. Pour les malades qui peuvent se déplacer ou que j'amène parfois sur un fauteuil roulant, pour ceux qui le désirent. Et l'accompagnement des malades, c'est...
Et des familles des malades également.
Et des familles des malades quand elles le désirent. C'est extrêmement important. Il peut y avoir parfois des appels immédiats, parfois ça m'arrive de nuit. C'est exceptionnel, mais ça peut se produire. Un malade qui appelle de nuit, c'est bouleversant.
Oui, et vous continuez en même temps à rédiger, à écrire. Et je crois que vous pouvez redire ce psaume 88. « Sauve-moi, ô mon Dieu, et vous pensez à tous vos malades. Les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme, mais le zèle de ta maison me dévore. Et tu exauces les pauvres, ô Yahvé. Tu ne méprises pas tous les captifs. » Nous pensons à toutes ces personnes qui sont touchées par la maladie et par le Covid. Et vous pouvez conclure par vos souhaits d'espérance de cette réforme de l'Église aujourd'hui.
Bien sûr. Moi, le Concile Vatican II et que le pape François illustre parfaitement, notamment dans cette encyclique, cette encyclique Fratelli Tutti, tous frères, c'est vraiment l'appel à la fraternité.
Dont nous avons beaucoup parlé à Radio Présence. Il faudrait encore aborder cette question. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement. À bientôt.
Merci Benoît, merci Christophe.